Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Mélanie.
Alors ce matin, les élections au Parlement européen, votre chronique porte sur les élections au Parlement européen qui se rapprochent. Le moment est venu de faire le bilan des sortants car nous n'allons pas élire seulement des eurodéputés, l'Union européenne va également changer de commission.
Et oui, à Bruxelles, la commission Juncker prépare ses valises. Les commissaires européens s'apprêtent à transmettre leur dossier à leur successeur. Les échéances en effet se rapprochent. Le 9 mai aura lieu à Sibiu en Roumanie le dernier Conseil européen avant l'élection du nouveau Parlement. Il est attendu qu'il précise les grands défis que devra affronter l'Union européenne au cours des années à venir, histoire de s'assurer que les électeurs sachent bien de quoi il est question lorsqu'ils glisseront leur bulletin dans les urnes. Ces élections elles-mêmes, elles auront lieu entre le 23 et le 26 mai et dès le mois suivant, en juin donc, les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront pour un Conseil européen destiné à en analyser les résultats. Autrefois, c'était dans cette enceinte très fermée qu'on choisissait le président de la Commission. Depuis 2014, le Parlement européen s'est attribué cette responsabilité et les eurodéputés sortants ont fait savoir qu'il était hors de question de revenir sur la procédure retenue il y a 5 ans, celle qu'on appelle des Spitzenkandidaten. En vertu de cette pratique inspirée d'Allemagne, chaque groupe parlementaire présentera un candidat en tête de liste pour le poste de président de la Commission. Et théoriquement, c'est donc le candidat présenté par le parti arrivé en tête aux élections européennes qui deviendra le président de la nouvelle Commission. Dans certains pays européens, cette politisation de fait a été critiquée. On y redoute une Commission trop partisane, alors qu'en tant que gardienne des traités, elle devrait être au service de l'intérêt général européen. Les commissaires, eux, sont désignés, comme on sait, par les gouvernements des États membres, ce qui garantit leur pluralisme. Mais c'est le président qui leur attribue leur département ministériel. Durant l'été, le Parlement européen procédera à l'audition des candidats au poste de commissaires européens et il accordera ou non son investiture à cette nouvelle commission. Alors sur le rôle de la Commission européenne s'affrontent deux conceptions. Ceux qui veulent aller vers une Europe fédérale, ils considèrent la Commission comme une sorte d'exécutif de l'Union européenne nommé et contrôlé par le Parlement européen. Mais ceux qui s'en tiennent à une vision intergouvernementale d'une Europe des nations, ils se contentent d'une Europe des nations qui se contente de coopérer entre elles, et bien ceux-là, ils voudraient que la Commission se contente de mettre en musique les grandes décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Et bien, dans son dernier livre, qui est d'ailleurs très remarquable, qui s'appelle « Quand l'Europe improvise », Luc van den Millelaar critique cette présentation qui est devenue un lieu commun. Pour ce philosophe, qui a été la plume de Herman Van Rompuy, quand celui-ci était président du Conseil européen, il y aurait en réalité non pas 2 points de vue différents sur ce que nous sommes en train de faire au niveau européen, mais bien 3. Parce qu'à côté de l'option fédéraliste, celle qui met en avant le Parlement européen, et de l'option confédérale, dont l'organe de prédilection c'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, il faudrait faire place à une vision qu'il appelle fonctionnaliste, celle qui veut s'en tenir à une Europe dépolitisée, régie par des normes juridiques et, on dirait, comme en pilotage automatique.
Et le temps est donc venu de faire le bilan de la commission sortante et de tenter de prévoir le contenu des dossiers qu'elle trouvera en prenant ses fonctions.
Oui, c'est à quoi se sont employés ces derniers jours certains think tanks spécialisés. Et je vous proposerai cette semaine d'en consulter ensemble certains de ces bilans et perspectives. 2 en particulier ont retenu mon attention. Celui simple, clair et synthétique publié en français par l'IFRI. Celui plus détaillé et technique publié en anglais et à Bruxelles par le Center for European Policy Studies. Cela nous permettra de voir s'ils convergent ou pas, sujet par sujet. Pour commencer, ces 2 rapports s'ouvrent sur le même constat désabusé d'un décentrement de l'Europe dans un monde devenu beaucoup plus instable et dangereux qu'il y a 20 ans. Un monde qui tend vers un système multipolaire et dont le centre de gravité commençait à basculer vers l'Asie du Sud-Est, lit-on dans le texte du CEPS. Du côté de l'IFRI, on estime très grand le risque de voir l'Union européenne, aujourd'hui encore acteur de premier plan du fait de sa puissance commerciale, perdre toute pertinence face aux grands que sont dorénavant la Chine et les États-Unis. Car des logiques de puissance qui ne font plus partie de la culture européenne sont à l'œuvre. L'avertissement récemment lancé par Sigmar Gabriel, le ministre fédéral SPD des Affaires étrangères allemand, reflète cette inquiétude. je le cite, « Dans un monde de carnivores géopolitiques, les Européens sont les derniers végétariens. Sans le Royaume-Uni, nous allons devenir carrément vegan. Et ensuite quoi ? Une proie ?»
Eh bien, merci beaucoup, Brice. Votre chronique à retrouver et à réécouter sur franceculture.fr.